Et bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans votre émission Nos Santé Mentales en Lutte sur Fréquence 7, dans cette deuxième partie sur la thématique assez vaste et assez ambitieuse de tout décoloniser. On se retrouve donc avec une nouvelle invitée. Je reçois avec grand bonheur pour cette émission Kali, avec qui j'ai discuté. On écoutera le fruit de cette interview, ce témoignage juste après. Et puis, comme toujours, je suis accompagnée de nombreux livres avec une sélection concoctée par la Bibli, les lins, les lunes, les lynx. Autour de moi, donc, une pile de papier, un féminisme décolonial de Françoise Vergès. Déjà, de la poésie aussi avec Et pourtant je m'élève de Maya Angelou, des titres originaux avec Woman, Race and Class de Angela Davis, ou encore Racisme d'État, État raciste de Olivier Lecourt, Grand Maison. Et puis l'hibiscus pourpre et tous les textes de Chimamanda Ngozi Adichie. Ou encore Obstiné de Sarah Ahmed, La parabole du semeur de Octavia Butler et La blanchéité aveuglante de Denis Ellis Béchard. J'ai aussi noté L'Afrique dans le temps du monde de Mamadou Diouf avec ses excellentes éditions Roth Beaucric qui sont basées à Sète mais que je n'ai malheureusement pas eu le temps de lire, qui m'a l'air très très bien. Et puis des petits formats aussi comme Bell Hooks et les textes de sa révolution féministe. Voilà, on est bien entouré pour cette deuxième partie. Et puis, comme nous avions pu commencer avec une pièce de théâtre, avec la pièce Carte noire nommée Désir de Rebecca Chaillon dans la partie 1, et bien là, je vous propose de commencer avec une autre œuvre, donc qui n'est pas que littéraire, qui est donc le biopic Fanon sur Frantz Fanon de Jean-Claude Barny, qui est actuellement au cinéma, à découvrir au navire. Vraiment, n'hésitez pas, allez-y, parce que comme on l'avait dit la dernière fois, il peine à être diffusé dans les salles, notamment de cinéma art et essai. Donc voilà, allez-y, vraiment, ça en vaut la peine. C'est un biopic qui retrace donc l'histoire, finalement, de ce psychiatre antillais révolutionnaire et révolté, militant pour l'indépendance de l'Algérie au FLN et référence de la pensée décoloniale. On avait déjà parlé de son ouvrage « Peau noire, masque blanc » dans lequel notamment il lutte contre l'aliénation des humains en général. On retrouve cette fameuse phrase « Le blanc est enfermé dans sa blancheur et le noir dans sa noirceur ». Et pour aller plus loin que le film sur son combat pour la révolution africaine, je vous conseille vivement le livre éponyme pour la révolution africaine, qui est donc issu de nombreux textes qu'il a pu rédiger, notamment entre 1953 et 1961, date donc de l'épopée de ce biopic qui nous parle de son enfance en Martinique, de son arrivée à Alger comme nouveau chef de service dans cet hôpital psychiatrique. Et puis sur la blanchéité aveuglante, eh bien, je voulais vous proposer un petit extrait qui nous rappelle à quel point le racisme est encore malheureusement d'actualité. Et car oui, vous le savez, dans cette émission, on est woke et on n'a pas peur de le dire. C'est donc à la page 18 de l'ouvrage « La blanchéité aveuglante, réflexion sur le racisme » de Denis Ellis Béchard. Il nous dit... Le racisme me semblait à la fois partout et nulle part, semblable à un élément constant dans une équation qui, une fois éliminé des termes de cette équation, n'aurait rien changé au résultat. Pourtant, rien n'est moins vrai. Le racisme est si profondément imbriqué dans le langage et les récits de ma culture, mais aussi dans la structure même de notre monde, qu'il m'est extrêmement difficile d'imaginer à quoi ressemblerait ma réalité sans lui. Cela reviendrait à imaginer une société complètement différente. C'est sur cette introduction que je vous propose d'écouter notre invitée Kali. Eh bien, bonjour, chère Kali. Tu es mon invitée pour cette deuxième partie. Aujourd'hui, on te nommera Kali pour conserver ton anonymat. Kali, comment veux-tu te présenter au monde aujourd'hui ?
Eh bien, je suis une jeune femme noire d'une trentaine d'années, environ, presque, Je suis africaine. Je suis arrivée en France il y a une quinzaine d'années environ. Cliché, j'adore danser, j'adore chanter, j'adore, c'est ma vie. J'adore le soleil, bien sûr. Et voilà, j'aime beaucoup m'amuser et j'aime beaucoup récupérer dans mon lit pendant quelques jours. Et voilà.
C'est vrai qu'on t'avait teasé avec flamme lors du premier épisode en disant qu'on allait parler notamment de queer et de personnes racisées. Donc, qu'est-ce que ça faisait aussi cette intersectionnalité-là? Est-ce que on reviendra dessus? Est-ce que tu te définis comme une personne queer? Est-ce que c'est récent pour toi? Et en termes de santé aussi, est-ce que c'est quelque chose que tu dirais qui te définit? Ou en tout cas, c'est quelque chose que tu vis?
Alors, me définir comme queer, j'ai toujours un peu de mal parce que j'ai l'impression que c'est toujours pas assez, pas suffisamment. Je ne suis pas assez queer pour me dire que je le suis parce que en même temps, j'aime les hommes et j'ai pas envie d'entrer dans l'espace de personnes qui aiment les femmes alors que j'aime les femmes. Mais je me dis que j'ai des choses encore à prouver à moi-même et au monde en fait pour vraiment me sentir queer alors que je le suis et que j'aime les femmes, elles sont magnifiques et tout simplement, j'aimerais que chaque jour, à partir de demain, que je me sente encore mieux dans ma peau, avec qui je suis et que je me sente tout à fait complète sans attendre d'expliquer des choses aux gens et de, disons, d'avoir ce besoin-là de me justifier pour mes envies, tout simplement, et pour l'amour que j'ai.
Tu es légitime, tu es
Merci.
queer. Et on reviendra après plus tard sur la santé, mais est-ce que déjà sur le témoignage de Flamme, donc lors de l'épisode précédent, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont parlé? Je crois qu'il y avait des sujets notamment sur le déracinement et sur la charge mentale qui t'avaient parlé. Tu veux nous en dire quelques mots?
Tout à fait. Pour le déracinement, je ne m'en suis pas tout de suite rendu compte parce que être déracinée pour moi, dans ma définition initiale, c'était juste naître dans un autre pays. Et en fait, je me suis rendu compte que non, en fait, mon déracinement, en tout cas personnel, c'est le fait d'être loin de mes parents qui sont censés être mes racines, de mon pays où je suis née, où j'ai grandi. Et le fait d'être venue à la moitié de ma vie, aujourd'hui en tout cas, ça a beaucoup changé de choses dans mon identité et dans ma représentation et de ma place dans le monde, en fait, tout simplement. Et là encore plus en vivant en ruralité. Mais je suis contente d'être venue quand j'étais déjà adulte parce qu'il y avait déjà. J'ai pu voir quand même beaucoup de personnes différentes quand je vivais en grande ville. Et ça m'a permis de comprendre que même quand on se sent seul, on ne l'est jamais vraiment. En fait, il suffit d'aller dehors et de se rendre compte que le monde est beau, le monde est grand et qu'il suffit de vivre.
Oui, parce que tu vivais
Et
pas
non.
toujours à Aubenas.
Et
T'étais où
non.
avant?
J'étais à la capitale. J'ai vécu pendant une bonne dizaine d'années. J'ai fait mon lycée là-bas. J'ai fait ma troisième. J'avais déjà mon brevet des collèges, mais on m'a fait retaper la classe ici parce que j'ai l'impression qu'on a tendance à refaire taper une classe aux étrangers, en tout cas africains, de ce que j'ai compris. C'est pas seulement mon expérience. J'en ai parlé avec pas mal de gens.
Quand t'es arrivée du coup en ruralité, ça a été comment?
Et gros changement, gros changement. Mais c'était une période où j'avais vraiment envie de changement aussi. Donc ça tombait vraiment bien. J'en avais un peu marre de l'ambiance en fait de Paris, du fait qu'il y ait trop de stress tout le temps pour n'importe quoi en fait. Tout, j'avais l'impression d'étouffer en fait clairement. Et en venant ici, j'ai découvert complètement autre chose. Mais ça a été une sacrée transition. C'est beaucoup plus calme ici. je dis on, c'est les Noirs, on est beaucoup moins nombreux ici. Et j'ai trouvé un peu difficile le fait de ne. De voir peu de gens qui me ressemblaient en fait quand il y avait des événements, quand il y avait des soirées, même parfois au bar en fait, j'étais dans un bar, disons qu'on était deux, trois noirs, et quand c'est des concerts ou des festivals, des choses où on devrait encore être encore plus nombreux, ben, j'étais quasiment à chaque fois la seule femme noire ou la seule personne noire en fait. Globalement. Donc, on se sent un peu seul, disons.
Et cette solitude, cet isolement et ta difficulté à connecter aussi, dont tu me
Oui.
parlais, comment tu l'as vécu aussi sur ta santé mentale?
Disons que je suis quelqu'un d'un peu introverti et j'ai vraiment ressenti du mal à aller vers les gens. Donc, le fait de me retrouver encore plus seule, enfin pas physiquement, mais le
En
fait
apparence,
de,
quoi.
voilà, en apparence, le fait de regarder autour de moi et de me dire, aïe mince, de quoi est-ce que je vais pouvoir parler tout simplement dans le sens où je trouve des sujets de discussion avec des amis. Mais je me retrouve un peu, disons, limitée parce qu'il y a ces barrières-là. Même si j'ai des amis qui sont très déconstruits et ça, j'en suis vraiment ravie et plein d'amour sur toi. Mais il y a, je trouve un peu de mal parfois d'aller au-delà en fait parce que quand par exemple je retourne à Paris ou quand j'ai des amis de mon pays qui reviennent ici, qui sont en visite, mais on gueule partout. C'est, on gueule partout tellement on trouve des choses à se raconter dans le sens qu'est-ce qu'on faisait au pays, nos habitudes. J'ai moins l'impression de devoir m'expliquer ou d'être le besoin d'être droite, de ne pas faire de pas de côté, de ne pas tourner ma langue cette fois avant de parler, parce que par exemple, quand je parle avec eux, je parle dans trois langues différentes, je commence ma phrase en français, je continue dans l'autre et on se comprend et ça va vite. Et je perds ma langue finalement. Je me suis rendu compte que plus je passe de temps ici, bon, pas forcément en Ardèche, mais dans ce pays, plus je perds un peu de mon identité en fait, parce que le fait de ne pas voir d'autres personnes qui me ressemblent, j'ai l'impression de perdre un peu à chaque fois un peu de moi, un peu de ma langue déjà, parce que si je ne pratique pas, ben je perds. Et la langue, ça fait partie de mon identité. Et j'avoue que ça me rend un peu triste quelquefois, parce que j'aimerais aller plus loin avec mes amitiés qui sont ici. Et je ressens des difficultés par rapport à ça. Je ne sais pas forcément comment l'expliquer ou à quel moment l'expliquer à mes amis. Et du coup, je ne dis rien. Et je me renferme et je reste dans le silence. Ce que je trouve dur, mais je ne trouve pas d'autres moyens de communiquer. Et je trouve ça un peu compliqué.
Sur la difficulté à être soi-même, il y a aussi la question de l'afroféminisme et notamment ce sujet de sortir de la bonne place, cette gentille place toute sage dans laquelle on voudrait te mettre. Comment tu arrives à sortir de ça, que ce soit dans la société, mais aussi auprès de ta famille, auprès de tes proches aussi, de tes amis? Est-ce que tu y arrives?
Pas tout à fait. Je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas, en fait. J'y arrive avec grande difficulté. Que ce soit au travail, que ce soit avec mes amis, que ce soit même en famille, sauf avec ma sœur, avec qui bah, je raconte tout n'importe quoi. Et on se juge entre nous gentiment et on passe à autre chose. Mais globalement, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal parce que mon père m'a toujours dit qu'il fallait travailler trois fois plus pour avoir les mêmes résultats que quelqu'un d'autre. Qu'une personne blanche, je vais le dire, deux fois plus parce que je suis une femme, trois fois plus parce que je suis une femme noire. Parce que, alors, il ne l'a pas dit pour être méchant, me dire que ce ne serait jamais suffisant ce que je ferais, mais pour m'expliquer, disons, avec ses mots et avec son expérience, que ce serait difficile et qu'il fallait que je m'accroche, en fait. Et donc, cette phrase-là, elle est restée longtemps dans ma tête, et c'est malheureusement quelque chose qui n'est pas très agréable en fait, puisqu'elle te tourne dans la tête et tu sais qu'à chaque choix que tu fais, il faut que tu le fasses bien, que tu réfléchisses, que tu traces droit. Et donc oui, j'ai un peu de mal à sortir de cet objectif de la perfection en fait. À l'école, je devais toujours avoir les meilleures notes parce qu'il fallait le faire et si je devais me faire remarquer, c'était seulement de cette manière-là et pas parce que je voulais montrer ma joie de vivre ou éclater parce que j'étais heureuse de vivre, quoi. Mais c'était rentrer dans les normes de l'intelligence, de la classe, etc., etc. Moi, je ne suis pas vraiment quelqu'un de classe. Moi, j'adore juste déborder, faire n'importe quoi, faire une roulade en pleine rue à mon grand âge. Mais j'arrive pas à me lâcher. Et c'est dur, mais c'est quelque chose que j'aimerais atteindre et je travaille dessus. J'essaie de. Maintenant, quand je dois faire mes choix, j'essaie de me dire, arrête de te sentir coupable, en fait. Juste, t'as envie de faire ça, fais-le, en fait. Qu'est-ce qui va se passer? Franchement, qu'est-ce qui va se passer? Au pire, d'accord, il se passe ça, et alors? Tu vois? Et c'est pour des choses un peu débiles, hein. C'est que même. Ça va jusqu'à mon choix de me lever, aller prendre un verre, quoi, tu sais, parce que je me fais déjà dans ma tête la liste des choses à faire, il faut que ce soit comme ça, dans une liste. C'est un peu long,
Ouais, des fois
disons.
t'as envie de te foutre la paix et de
Ouais.
te libérer de toutes ces injonctions, quoi.
C'est ça, juste j'ai envie de boire de l'eau, je me lève, je bois de l'eau, et puis je vais me rasseoir, ou au travail, j'ai envie de dire quelque chose qui ne va pas, et ben, je le dis, c'est pas grave si on me dit, mais ah, elle me fait chier, elle, pourquoi elle me parle de ça en fait? C'est pas grave, je vais essayer de ne pas y penser pendant 2 jours après. Juste, j'ai besoin de sortir ça, il faut que tu le sortes. Et c'est dur de se lâcher et de dire les choses, mais c'est mon grand combat actuel.
C'est ouf parce que juste, tu as le droit d'être simplement et déjà tellement toi et t'as pas à être en représentation ou, comme tu disais tout à l'heure, ambassadeur de tout un peuple, comme
Ouais.
si tu étais tout le temps avec ton costume
C'est ça.
d'ambassadeur et que tu devais vraiment donner la meilleure vision de toi-même et tout. Et c'est vénère, enfin.
Ouais, c'est lourd.
Et il y a de quoi être en colère, et il y a de
Ouais.
quoi péter un câble, et il y a de quoi en avoir marre.
Ouais.
Et cette colère de Rebecca Chaillon, cette colère dont elle parle aussi dans sa chanson Anger, colère, en anglais, qu'on a passé lors du premier épisode, est-ce que ça te parle, toi?
Oui, ça me parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai cette colère qui est toujours avec moi, en fait. C'est-à-dire que, en fonction des jours, elle est là au réveil. Elle m'accompagne quand je prends mon café. Elle m'accompagne quand je vais me coucher le soir. Et elle est à son paroxysme quand je prends mon téléphone, surtout. Et que j'ouvre tout simplement juste Instagram. Parce que il y a quelques années encore, je me disais, Instagram, il faut qu'on y aille parce que c'est un média en fait. Et il faut s'en servir pour apprendre ce qui se passe dans le monde entier. Parce que sinon, c'est de la flemme. Parce que certes, on ne regarde plus la télé. Enfin, moi, je ne regarde plus la télé. Donc, je me dis que les réseaux sociaux, ce serait que je garde un minimum d'infos, ce serait pas mal. Sauf que plus je like des infos parce que je veux en recevoir, plus j'en reçois. Et donc mon feed est juste rempli de tout ce qui se passe dans le monde et du fait qu'on n'est pas écouté, qu'on n'est pas considéré et qu'on pourrait juste disparaître. Le monde n'en a rien à foutre en fait. Et donc oui, ça met en colère. Et en même temps, ça me rend impuissante parce que concrètement, ça me met en colère, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse en fait? Là, je vais au travail, je dois payer mes factures. Qu'est-ce que je vais faire pour changer ça, à part en parler avec mes amis? Sauf que en parler avec mes amis, ça commence là et c'est gentil et c'est un échange d'informations. Mais en fonction des personnes avec qui t'es, donc mes amis, ça va, mais plus tu rencontres de nouvelles personnes. Et que tu te rends compte que ces personnes-là sont un peu éloignées, en fait, disons, déconnectées, pardon, du monde, enfin, en tout cas de toi, ton monde, de ta vision du monde. Plus tu as envie de juste couper de ces personnes-là, même si ce sont des personnes adorables, ce sont des personnes qui sont joyeuses, mais en fait, tu es juste fatiguée parce que en même temps, tu te dis, il faut que je leur explique les choses parce que sinon, elles vont pas comprendre. Et en même temps, tu te dis, bah, en fait, j'ai pas envie de faire ça maintenant. J'ai juste envie de boire un café et de raconter de la merde sur, je sais pas, un réel que j'ai vu ou un mème qui m'avait rigolé, tu vois. Ici, quand je rencontre de nouvelles personnes, généralement, c'est à la deuxième phrase qu'on me demande d'où je viens, en fait. C'est automatique. Mais en même temps, je me dis, c'est juste parce qu'ils veulent te connaître, qu'ils veulent avoir des sujets de discussion. Mais pour le coup, je
C'est
trouve
une
ça un
forme de
peu.
racisme, hein?
Ça l'est.
Clairement.
Et tu ne peux. Enfin, en fonction des personnes, tu peux pas le dire. Tu
Bien sûr.
vois. Tu peux pas le dire parce que ces personnes-là, elles vont se dire, bah, attends, mais pourquoi elle sort les grands mots là? Racisme de quoi? Je te demande juste d'où tu viens. Et enfin, tu serais espagnol, je t'aurais dit la même chose, tu
Oui, c'est
vois.
ça,
Ouais,
ouais.
non,
Genre.
je crois pas, non. Non, tu me le dis parce que je suis noire et que, je sais pas, peut-être que t'as envie de créer du lien avec moi, mais c'est pas la bonne manière.
C'est
Parce
clair.
que vraiment, tu me dis ton prénom, je te dis le mien, on peut parler de plein d'autres choses, je sais pas, moi, de la bouffe, des cocktails, j'en sais rien. Mais pas forcément du pays où je suis née, où j'ai grandi. Enfin, peu importe, t'as pas besoin de me demander mon origine. Et en général, quand on me pose cette question, je réponds quand je suis de bonne humeur et je leur repose la question, même si je sais que de toute façon, ils vont pas tilter, en fait, quand je leur pose la question. Et que ça va continuer ainsi. Mais je me dis que ça sert à rien de ressasser les choses et qu'il vaut mieux juste passer à autre chose, mais c'est relou quand à chaque fois tu rencontres de nouvelles personnes et que tu dois re-raconter ton CV génétique, tu vois.
Tu dois te
Ouais.
justifier tout le temps, en fait.
Ah.
C'est chiant. Et sur cette charge mentale-là, tu me disais que tout comme Flamme, tu l'avais vécu même dans le milieu médical, de devoir en fait apprendre des choses et faire de la pédagogie et de la sensibilisation. Et au final, les rôles s'inversent et tu peux même pas avoir le soin que tu devrais recevoir, tu peux même pas l'avoir correctement. Ça, tu m'en parlais dans le cadre de la santé mentale. Mais dans le cadre de la santé tout court, du coup, tu veux nous parler de la maladie de laquelle tu es atteinte?
Oui, alors je suis drépanocytaire, donc c'est une maladie génétique grave du sang. On l'appelle aussi anémie falciforme, et en fait, à l'origine, c'est une maladie de l'hémoglobine. Et c'est dû à une malformation des globules rouges. Donc les globules rouges sains sont ronds. Et en fait, les miens sont un peu ronds, mais au fil du temps, ils deviennent en forme de bonbons un peu fondus, ensuite un croissant, ensuite des sortes de petits caillots de sang. Et finalement, plus ils se réduisent, plus ils bouchent les artères. Et ça bloque la circulation de l'oxygène. Et ça peut causer donc plusieurs complications cardiaques, rénales, respiratoires, des AVC dans les cas les plus graves ou des crises mortelles. Moi, j'ai la forme pas la plus sévère, mais juste avant. En fait, il y a quatre formes. Il y a quatre formes, bref. avant, plus sévère. Et donc, on va souvent à l'hôpital, quoi. Je vais souvent à l'hôpital. Là, ça fait un an que je ne suis pas allée à l'hôpital. Je suis contente, vraiment. Mais les dernières fois où je suis allée à l'hôpital, j'ai dû expliquer en fait à des médecins ce que c'était et que non, en fait, c'est pas juste de la fatigue, c'est que je n'ai plus de sang, en fait, je n'ai plus de globules, mon oxygène ne peut pas aller normalement au cerveau et au cœur, donc il y a un problème là. Donc je crie pas de douleur, mais parce que j'ai mal depuis ma naissance, donc je sais un peu gérer la douleur, mais ça ne veut pas dire que je simule pour avoir de la morphine. Clairement, je suis devenue allergique à la morphine, tellement c'est abusé. Mais quand j'y vais, il faut que je l'explique 4-5 fois en fait, où j'ai mal alors que je suis en train de me tordre de douleur. Et c'est des choses qu'on peut noter, hein, qu'on peut se passer. Enfin, c'est par exemple quand j'arrive, quand je suis reçue à l'hôpital en urgence, déjà le SAMU sait ce que j'ai, les ambulanciers savent, à l'entrée ils le savent, on me le redemande encore 4-5 autres fois pendant que j'ai mal, avant de me donner un traitement. Et plus je vais dans une zone reculée, plus c'est compliqué en fait, parce que soit ils savent pas du tout ce que c'est, soit ils l'ont vu en première année d'université pendant 2 semaines, quoi. Et ils ont juste survolé le sujet et ils ne savent pas vraiment comment traiter normalement. Et donc, j'ai des remarques du style c'est une maladie de noir, on n'a pas ce qu'il vous faut comme médicament, je ne sais pas ce que je peux faire, je peux juste vous donner de la morphine et vous renvoyer chez vous. Alors qu'il y a tout un parcours de santé en fait, il y a plein de manières de soigner les crises. Certes, la morphine ou des morphiniques, ça soulage immédiatement pour que le patient se calme avant d'entamer un vrai traitement global. Mais c'est des choses qu'il faut savoir, et vu que cette maladie est catégorisée maladie de noir, elle n'est pas assez étudiée. C'est la première maladie génétique au monde, en fait, ce qui touche le plus de personnes dans le monde, avant la sclérose en plaques. En France, il y a plus de maladies drépanocytaires, si je dis pas de bêtises, mais c'est le cas. Je pense que c'est le cas. Et pourtant, on n'en parle pas, en fait. On ne sait pas ce que c'est la drépa, quoi, en fait. Enfin, tu vois, c'est assez compliqué. Et je trouve ça très, très dommage. Il y a beaucoup d'associations qui en parlent, mais ce n'est jamais vraiment suffisant, en fait.
Merci beaucoup pour ton partage et aussi de nous en parler, c'est ultra précieux. Je vous propose un petit interlude musical avec Didn't You Know de Erika Badu, une artiste que Kali aime beaucoup car elle glane son imperfection et son désir de s'élever. Tout comme ça résonne en elle, ça résonne en nous. Alors on s'en écoute un extrait et je vous laisse suivre. Écoutez le reste. Noter aussi une petite question sur le fait que tu sois à la fois une femme racisée et à la fois une femme racisée et queer. En fait, sur le fait qu'on va toujours attendre des personnes concernées, qu'elles soient des expertes dans leur domaine, et que c'est une charge supplémentaire et une culpabilité que ça nous met si on ne l'est pas, si on n'est pas experte, si on n'a
ouais.
pas vu tous les films, lu tous les livres,
oui.
écouté tous les speeches des personnes qui sont militantes dans le domaine.
Mmh.
Et pourtant, c'est la double peine aussi, parce que c'est ultra traumatisant. D'aller lire ses ouvrages, d'aller voir ses films, etc.
Mm.
Et en parlant de ça, il y a ce biopic de Frantz Fanon qu'on a, toi et moi, vu à des
oui.
moments différents. Et toi, voilà, t'as fait ce choix d'y aller. Je sais pas, est-ce que tu veux nous en parler? Comment tu l'as vécu aussi? Je sais qu'il y a des scènes qui t'ont marqué plus que d'autres, voire même choquée.
Oui, alors c'est un film que j'ai trouvé un peu dur à voir parce qu'il y a des choses qui... Malheureusement, c'est en 1950. C'était bien ça, hein? Oui. Et là, on est en 2025, quoi. Et il y a certaines choses qui existent encore. Je trouve ça dur parce que, enfin, ce film-là, comme beaucoup d'autres films... Je sais pas, je perds un peu mes mots, mais il y a des extraits qu'on peut nous montrer qui peuvent sembler très banals, mais qui sont des micro-agressions en fait. Par exemple, quand on vient en tant qu'expert d'un sujet ou d'un autre, parce qu'on a fait des études par rapport à ça, qu'on connaît bien le sujet et qu'on essaie d'en parler tout simplement. Et que finalement on ne nous écoute pas parce qu'on se dit qu'en fait c'est bizarre que cette personne-là vienne nous apprendre quoi que ce soit à ce sujet-là. Je suis sûre d'en savoir plus qu'elle, donc je vais pas lui donner l'espace en fait d'en parler. Et donc finalement, quand on n'en parle pas, c'est aussi pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas? C'est hyper important en fait. Est-ce qu'elle s'en fout de ce combat? Qu'est-ce qui se passe? Tu devrais savoir, tu devrais, comme tu disais, avoir lu, avoir regardé. Tu sais, j'ai lu ce bouquin qui parlait de ci, qui parlait de ça. Et moi, je suis en mode, oh, mon Dieu, mince, je suis pas assez dans le combat, putain. Ne m'enlevez pas ma carte noire, s'il vous plaît. Ma carte d'identité noire, pardon, parce que je ne sais pas de quoi tu parles.
Là, tu parles d'une scène
Oui.
précisément où Frantz Fanon, en tant que docteur spécialiste de son domaine, vient à l'université, invité par l'interne qui travaille avec lui,
Oui.
parler du sujet qui semble être le sujet de la peur.
Oui.
Et il commence un discours poignant, un mélange de témoignages et de connaissances sur le sujet. Et des élèves racistes, du coup, l'insultent et lui jettent des bananes dessus. À ce moment-là, ce qui est fou, c'est que toi, ce que tu dis, c'est que voilà, toi, en fait, on t'enlèverait une carte de ton identité, alors que toi, c'est ce que tu vis au quotidien. Et c'est peut-être juste normal, parfois, de ressentir cette culpabilité en tant que blanc, d'avoir fait partie du mauvais côté de l'histoire et d'avoir hérité d'une histoire du colonialisme et de devoir nous informer et comprendre les mécanismes de la suprématie blanche, enfin les mécanismes de la domination, les mécanismes des oppressions et des discriminations. Donc c'est ok en fait que à la limite c'était des personnes qui ne sont pas directement concernées et qui ne vivent pas ces violences et ces agressions au quotidien qui doivent s'informer. Je veux dire, à la limite, tu as le droit aussi de peut-être te laisser tranquille et te foutre la paix. Et parfois, juste, en fait, tu le vis déjà, donc tu es au courant, t'as pas forcément... En fait, il n'y a aucune injonction à ce que tu lises tout ça et que tu deviennes experte dans le domaine de ta propre identité. Enfin...
Oui, mais pourtant c'est toujours présent finalement,
Ouais.
même si on ne le fait pas forcément sentir. En fait, je pense que c'est peut-être quelque chose d'inconscient ou d'interne en fait à nous-mêmes. On se donne cette pression de... Enfin bon, pourquoi je dis on en fait? Je
Ouais,
juste, moi, je
on se
ressens
retrouve.
cette pression-là, alors que je ne devrais pas forcément, comme tu dis, je devrais juste vivre les choses. Mais c'est toujours quelque chose de présent. Et comme tu disais, oui, on peut juste se donner de la distance. Comme par exemple, personnellement, j'ai du mal à aujourd'hui à écouter des histoires ou voir des films d'une certaine époque parce que je sais qu'il y aura un extrait sur l'esclavage, il y aura un extrait sur les violences policières, sur, enfin, sur plein de choses que, disons, le monde a l'impression d'être notre identité, en fait. Quelque chose que le monde pense être, enfin représenter les personnes noires, je sais pas si c'est clair ce que je dis. Et donc, c'est dommage parce que je rate de belles histoires, mais par peur en fait d'être confrontée à des choses que je ne veux pas voir, que je suis fatiguée de voir, d'écouter, parce que je sais que ça se passe comme ça, tout simplement, j'ai juste envie de voir autre chose, de lire autre chose, d'écouter autre chose, des histoires d'amour en fait, tout simplement, des histoires passionnelles, juste une personne noire, juste elle va à l'école, elle s'amuse bien, elle rentre, elle va danser, si elle a envie de danser, elle va voir un film drôle, et puis sa journée se passe hyper bien, sans être confrontée à de la violence physique. Ou sexuelle, ou mentale, ou de tout type, en fait, tout simplement juste être entière et être heureuse.
On a besoin dans nos imaginaires d'avoir des représentations aussi qui sont moins douloureuses.
Oui.
Et je dis on aussi parce que c'est la même chose si tu parles de personnes queer et doublement si tu parles d'une personne racisée queer. Stop en fait les dramas.
Bien quoi.
Tu vois, tout comme le podcast Lesbienne au coin du feu est né pour ça, pour avoir cette vocation-là, bah là, moi je propose qu'on crée un queer noir au coin du feu.
Écoute, pourquoi pas comme ça?
Qu'on crée, mais c'est vrai que
Carrément.
En plus, c'est une charge supplémentaire. Et je pense que ce qui est hyper important dans ce que tu disais, c'est aussi la responsabilité individuelle et collective de la part des personnes. Moi, je parle aussi de la part, surtout de la part des personnes blanches, parce que on va pas se mentir, il y a vraiment une responsabilité individuelle et collective d'arrêter de faire genre le racisme n'existe plus.
Hi.
Parce que déjà, commencer par là, c'est énorme. Et je te parlais du livre La blanchéité aveuglante. Ce livre nous explique à quel point. Voilà, ça vraiment ça empêche de voir à la réalité le fait d'être blanc et d'avoir ce privilège-là et de ne même pas se rendre compte de comment ça se passe encore aujourd'hui. Des années 50 aux années 2020, il n'y a
C'était
pas
il n'y a pas
grand-chose.
longtemps,
Ouais, il n'y a
hein?
vraiment pas grand-chose qui a bougé.
Ouais.
Et c'est pas parce qu'il y a certaines choses qui vont mieux et heureusement qu'on doit dire, bah,
Oui.
ça y est, tout va bien. Je pense que voilà, ça commence déjà là. Arrêtez de faire genre, ça n'existe pas. Et c'est ça aussi dont on parle tout le temps dans cette émission, c'est le fait d'être woke, d'être éveillé, d'être conscient à toute forme de discrimination et d'oppression. C'est déjà avoir une part du pouvoir parce que tu vois les choses, tu comprends les choses et alors tu peux faire en sorte qu'elles changent. En tout
Tout
cas,
à fait.
ma chère Cali, je voulais te donner le mot de la fin. Qu'est-ce qui te ferait plaisir de partager avec nous? Peut-être aussi une bonne représentation, une série, un film, une artiste, peut-être quelque chose, quelqu'un qui t'inspire, qui te donne de la force, je sais pas, ou tout simplement le mot de la fin qui te convient.
Je vais juste parler d'une artiste que j'aime bien, enfin de deux artistes que j'aime bien. Solange Knowles, c'est la sœur de Beyoncé, mon Dieu, pardon Solange. Juste Solange, écoutez-la, elle est géniale, elle parle de sujets hyper inspirants et elle nous donne un espace en fait. Juste, il y a un morceau qui s'appelle FUBU, c'est For Us, By Us. En gros, c'est comme je disais, ouais, nous donner un espace de juste, il y a des choses qu'on a le droit de vivre en fait, qui sont pour nous en fait, dans le sens, oui, on a le droit de se créer une communauté, ça ne veut pas dire qu'on exclut les autres, en fait, on veut juste se retrouver et c'est juste ok. Et c'est un génie musical, en fait, vraiment, je la conseille carrément. Et il y a quelqu'un d'un peu plus jeune qui s'appelle Megan Thee Stallion, elle fait du rap, c'est pas... Ça ne plaît pas à tout le monde, mais moi j'adore. En fait, elle est peut-être un peu trash, mais très sexuelle. Mais elle s'affirme, elle est juste, elle vit sa vie en fait, tout simplement. Et c'est juste une reine. Et ça, elle me donne de la confiance en fait. Elle me donne de la force, tout simplement. Donc, si vous voulez l'écouter, vous l'écoutez. Je l'adore. Voilà.
Merci beaucoup, Camille.
Merci pour ton Clara temps, d'amour. Merci beaucoup.
Vraiment, vraiment, je t'aime.
Je t'aime énormément aussi, vraiment.
Genre,
merci.
On va aller rouler, faire des roulettes dans la rue, là. On va aller.
Ah ouais? Il fait pas encore assez sombre. J'aime bien faire des roulades, mais pas sous le soleil. Mais merci vraiment, c'était génial. Et bravo à Flamme aussi, bravo à votre, à la première partie du podcast. Très, très beau moment. J'ai beaucoup aimé vous écouter. Et, merci de m'avoir donné l'espace de parler de ce sujet qui est très important. Et si je devais dire quelque chose pour la fin, c'est... Ouvrez les yeux, ouvrez votre esprit et acceptez le fait que chaque jour on apprend et qu'on n'est jamais au bout en fait de ses connaissances. Et juste écoutez. Voilà, écoutez et donnez-nous de l'espace quand on en a besoin. Et voilà.
Merci.
Merci à toi.
Je voudrais remercier notre invité Kali pour sa présence, son témoignage et sa grandeur humaine. Et Clara et Sylvain pour leur aide à la technique toujours précieuse, Fréquence 7 bien sûr, de nous accueillir. Et bientôt, nous retrouverons en juin pour le dernier épisode de la saison 1 de Nos Santé Mentales en Lutte déjà. Alors je vous propose que l'on se quitte pendant quelques temps en musique avec le titre solo de Loose and the Yakuza qui a été choisi à l'unanimité par nos deux invités du mois pour que le noir devienne une couleur de l'arc-en-ciel et qu'ensemble on puisse tous te briller et se libérer. Des bisous.
Quoi que l'on fasse, on restera solo. Solo, 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 solo. Quoi que l'on dise, on restera solo. Quoi que l'on fasse, on restera solo. Solo, 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 solo. Dès la naissance, on nous a promis monts et merveilles. À condition qu'on l'affirme, qu'on oublie l'essentiel. À qui demander de l'aide à part au Père éternel? N'est-il pas une couleur de l'arc-en-ciel? Que Dieu m'éloigne du chemin de la vengeance. Le rendre la paresse est tentant. Dois-je crier pour qu'on m'entende? 6-0 années de l'indépendance. Que Dieu m'éloigne du chemin de la vengeance. Le rendre la paresse est tentant. Dois-je crier pour qu'on m'entende? 6-0 années de l'indépendance. Toujours devoir débattre, oh non. Toujours devoir se défendre, oh non, non. Se battre jusqu'à la muerte. Parce qu'on a trop de fierté. Toujours devoir débattre, oh non. Toujours devoir se défendre, oh non, non. Se battre jusqu'à la muerte. Parce qu'on a trop de fierté. Quoi que l'on dise, on restera solo. Quoi que l'on fasse, on restera solo. Solo, 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 solo. Quoi que l'on dise, on restera solo. Quoi que l'on fasse, on restera solo. Solo, 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 solo. Comment faire pour ne jamais leur rendre l'appareil? Personne ne peut voir à travers les liens fraternels. Certains continuent à nous voir comme leurs adversaires. Pourquoi le noir n'est-il pas une couleur de l'arc-en-ciel? Que Dieu m'éloigne du chemin de la vengeance. Le rendre la paresse est tentant. Dois-je crier pour qu'on m'entende? 6-0 années de l'indépendance. Que Dieu m'éloigne du chemin de la vengeance. Le rendre dans la paresse est tentant. Dois-je crier pour qu'on m'entende? 6-0 années de l'indépendance. Parle, allez, dis-moi ce qui te gêne. Je sens ton regard et ton cœur qui se gèle. Parle, allez, dis-moi ce qui te gêne. Je sens ton regard et ton cœur qui se gèle. Quoi que l'on dise, on restera solo. Quoi que l'on fasse, on restera solo. Solo, 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 solo. Quoi que l'on dise, on restera solo. Quoi que l'on fasse, on restera solo. Solo, 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 solo. Quoi que l'on dise, on restera solo. Quoi que l'on fasse, on restera solo. Solo, 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 solo. Quoi que l'on dise, on restera solo. Quoi que l'on fasse, on restera solo.
Ice, ice.
Solo, solo.
Ice, ice.
Solo, solo.